RCF. Fidèle auditrice, auditeur de RCF et de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte, avec Agora Défense. Bonjour. Notre saison 2023-2024 se poursuit avec de nouveaux invités qui, dans leur vie professionnelle et active, ont servi notre pays dans sa défense. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios l'amiral Philippe Mallard. Bonjour, amiral.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Agora Défense. Amiral, je vous propose pour cette première émission de vous retracer votre brillante carrière et, au travers de votre parcours, nous présenter les multiples facettes de la Marine nationale qu'on appelle aussi royale. Ma première question, amiral, va peut-être vous paraître très saugrenue. Que fait un amiral aussi loin de la mer dans ce Berry profond ?
Alors, c'est assez simple. D'une part, avec mon épouse, nous avons déménagé, je crois, 22 ou 23 fois. Nous avions donc besoin d'un point fixe. Ce point fixe était pour moi, tout naturellement, le Berry, puisque ma famille y habite depuis vraiment bien longtemps. Voilà. Et donc, c'était évidemment au départ une résidence qualifiée de secondaire. Mais quand j'ai décidé de quitter le service actif, tout naturellement, nous nous sommes installés en Berry, chez nous. Voilà.
Alors, justement, amiral, votre vocation de marin n'est-elle d'une tradition familiale ?
Alors, pas vraiment une tradition familiale, dans le genre qu'il y a déjà eu des marins dans ma famille, mais on va dire il y a un certain temps. Je suis d'une famille de 7 enfants. J'ai été élevé à Paris par un père qui, après avoir été officier dans l'armée de terre, est devenu industriel. J'ai préparé les grandes écoles, j'ai choisi de faire l'école navale.
Quelle école préparatoire vous avez fait ? Quel lycée ?
J'étais en taupe au lycée Condorcet à Paris.
Très bien. Excellent établissement, amiral. Alors, vous intégrez justement l'école navale en 1960. Pouvez-vous me dire en quelques mots un peu l'historique de cette brillante école où tradition et modernité fédèrent, je le dis très fort, l'excellence ? Parce que navale...
Aïe. Alors écoutez, l'école navale, c'est quelque part bâti petit à petit, c'est-à-dire que le premier signe d'une école navale, c'est sous Louis XIV. Et c'était à Toulon, ça s'appelait les cadets de la marine, parce qu'il fallait bien commencer à enseigner, l'astronomie qui commençait, etc. Puis il y a eu les événements politiques que vous connaissez en France, et pour aller vite, entre les deux guerres, on a créé une grande école navale à Brest, et cette école navale, après la Deuxième Guerre mondiale, a traversé la rade de Brest et s'est installée à Lanvéoc-Poulmic, oui. Où nous passons, moi j'en passe deux, j'ai passé 2 ans à l'école navale, maintenant il y en a 3, parce que pour avoir un diplôme d'ingénieur catégorie A, il faut avoir 3 ans d'école.
Vous sortez de cette école navale comme enseigne de vaisseau de deuxième classe et première classe ensuite, et vous faites le choix de l'aéronavale. Qu'est-ce que l'aéronaval, amiral ? Est-ce uniquement des aéronefs sur des porte-avions ?
Alors, petite chose avant, je n'ai pas fait tout de suite le choix de l'aéronaval. J'ai commencé par naviguer, en particulier dans l'océan Pacifique, et si vous voulez, à titre anecdotique, oui. J'ai fait la connaissance de mon épouse à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
J'ai, cela dit, après choisi l'aéronautique navale. L'aéronautique navale a 3 grandes composantes. Bien sûr, celle qui est la plus connue, qui est l'aviation embarquée sur porte-avions. Et il y a après l'aviation de patrouille maritime et enfin les hélicoptères embarqués qui sont de plus en plus répandus sur tous les bateaux. J'ai pour ma part choisi volontairement d'être dans l'aviation de patrouille maritime parce que je voulais avoir un équipage. Alors que dans l'aviation embarquée, on est tout seul à bord. Je dois dire que j'ai une grande admiration pour les pilotes d'aviation embarquée et qu'un de mes fils est pilote de l'aviation embarquée.
Oui. Alors justement, vous avez volé, si je puis me permettre, sur le Brigue Atlantique.
Tout à fait.
Alors c'est un équipage de combien le Brigue Atlantique ? Vous êtes combien sur, dans un Brigue Atlantique ?
12, entre 12 et 14 selon les types d'équipage.
Donc c'est important, hein ?
Ah oui, tout à fait. C'est un avion qui fait 42 tonnes et qui peut rester en l'air une quinzaine d'heures. C'est quelque part un bateau volant.
Le Rafale peut être lui aussi... Lui, il est sur le porte-avions, lui.
Alors, le Rafale est sur le porte-avions, mais ce n'est pas du tout les mêmes missions, si vous voulez. Si vous voulez, grosso modo, l'aviation de patrouille maritime surveille, fait un petit peu la situation, mais intervient aussi avec des armes, et anti-sous-marine et anti-bateau. L'aviation embarquée, elle, est plus spécialisée dans l'attaque des autres bateaux, mais aussi l'attaque à terre à partir de la mer, ce qui, politiquement, est quelque chose d'important et de très différent des autres types d'attaques que l'on fait.
Alors, je poursuis mon enquête. Après votre carrière de pilote, comme capitaine de corvette, vous prenez le commandement, comme capitaine de frégate, de l'aviso d'escadre, commandant Bourdet. Moi, le néophyte, pose la question encore, amiral, qu'est-ce qu'un aviso d'escadre ?
Alors, en principe, le terme, enfin, en tout cas celui à mon époque, c'est aviso escorteur.
D'accord.
Ce sont des bateaux qui font grosso modo 3000 tonnes, ce qui est pour un bateau de combat moyen. Ils sont plutôt déployés sur les territoires d'outre-mer. Cela dit, celui que j'ai pris pour commander, le commandant Bourdet, était lui, pendant des années, très longues années, spécialisé dans la surveillance des pêches à Saint-Pierre et Miquelon. Ouais. Mais moi, je n'ai pas participé à cette catégorie de mission. J'ai rejoint le commandant Bourdet dans l'océan Indien et je l'ai commandé à Indien et Atlantique et j'ai terminé mon commandement à Lorient parce qu'il fallait caréner le bateau. Voilà.
Alors justement, comment est-ce qu'il y a de marins sur un...
Une centaine à peu près, voilà.
Ensuite, après le commandant Bourdet, vous prenez le commandement du Suffren comme capitaine de vaisseau. Alors le Suffren, on en a parlé un petit peu dans la presse il y a peu de temps, parce que ce Suffren, je crois, va aller être démonté à Bordeaux, c'est bien ça ?
Alors c'est très compliqué.
Alors, expliquez, parce que ça c'est intéressant.
Alors d'abord, si je peux me permettre, il y a deux prononciations pour le bateau.
Ah oui ?
Suffren. Et Suffren.
Suffren et Suffren.
Et c'est amusant quelque part parce que ça permet de trier l'origine géographique des gens. Car les Méditerranéens, car vous savez que Suffren était de Saint-Tropez, disent Suffrein. Voilà, bref, le Suffren a eu une carrière tout à fait longue et importante. Vous savez qu'on le reconnaît assez facilement parce que il y avait que deux bateaux comme ça, le Duquesne et le Suffren, qui ont un radar anti-aérien absolument énorme, qui permet grosso modo à partir de Toulon de tenir la situation aérienne sur la moitié de la Méditerranée.
C'est énorme.
Et donc pour faire cette technologie, on a fait une énorme antenne avec un énorme dôme et donc on reconnaissait le Suffren avec ça. À la fin de sa carrière, qu'il y a toujours un moment où la carrière s'arrête, le Suffren devait partir dans une autre nation, et puis ça n'a pas marché, et l'écologie, quelque part, et démonter des bateaux est devenu quelque chose d'interdit en France, d'à peu près interdit en France. Donc on a cherché où envoyer le Suffren. Il a eu beaucoup de mal à trouver un endroit. D'ailleurs, il n'en a pas trouvé du tout parce qu'aucun des contrats n'a pu être conclu. Et finalement, on a décidé de le mettre à quai comme musée à Bordeaux.
Alors, c'est à peu près le même destin pour nos deux porte-avions, Foch et Clemenceau.
En effet.
C'est bien ça, hein.
En effet, c'est un peu ça, oui.
Oui, parce qu'on n'avait pas vendu un porte-avions au Brésil, non ?
Tout à fait. On a vendu le Foch au Brésil. Le Foch, il me semble.
Oui, c'est le Foch, oui.
Au Brésil.
D'accord, très bien.
Tout à fait.
Alors, vous accédez, monsieur capitaine de vaisseau, au grade de contre-amiral. Alors, contre-amiral, c'est 2 étoiles.
2 étoiles.
Et ensuite, pour être nommé, ensuite vice-amiral,
3 étoiles.
Alors, c'est là que je vais vous demander des explications. Puisque vous ne naviguez plus, vous êtes sur terre, vous êtes préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, et vous commandez l'arrondissement maritime de Cherbourg. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre mission en tant qu'amiral préfet maritime ?
Si vous voulez, avant d'être préfet maritime, j'ai commandé l'arsenal de Toulon. Ce qui a été une école de management, si je puis dire, tout à fait intéressante, parce que dans l'arsenal de Toulon, il n'y a pas que des militaires, il y a aussi beaucoup d'ouvriers civils qui sont évidemment membres de syndicats, et je peux vous assurer qu'on apprend beaucoup de choses à diriger ce genre de personnes. Cela dit, préfet maritime est en effet une fonction tout à fait originale, il en existe trois en France. Un à Toulon, oui. Un à Brest et un à Cherbourg. La fondation de cette fonction remonte grosso modo à la fin de la Révolution, quand on a voulu changer, car autrefois il existait ce qu'on appelait des intendants, oui. Et on a voulu les remplacer, et donc, à vrai dire, c'est l'empereur Napoléon qui a signé les papiers, autant que je me souvienne, mais ça je peux pas vous le certifier, qui font donc de ce monsieur un préfet de la mer. Il est donc le représentant direct du gouvernement, enfin de l'État plus exactement, et ce n'est pas une fonction militaire, c'est une fonction civile. C'est une fonction civile. Et la grande caractéristique de cette préfecture maritime, ce sont évidemment, outre la gestion des intérêts nationaux, les relations internationales. Et c'est la raison pour laquelle la préfecture maritime de Cherbourg est la plus petite géographiquement et en nombre de personnel, mais la plus grosse au point de vue préfecture maritime, parce que il y a de l'autre côté de la Manche des voisins que je qualifierais de pas toujours commodes et qui en plus ont des intérêts tout près de notre côte avec les îles anglo-normandes. Et donc, si vous voulez, les problèmes qui se posent dans ce coin-là, que on peut résumer en disant d'abord les activités économiques et tout particulièrement du point de vue du personnel, la pêche, oui. Surtout dans cette région-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est exploitation des fonds. Ça, c'est un peu plus délicat parce que grosso modo, la technologie n'y est pas encore. Et ensuite, vous avez tout ce qui est sauvetage en mer, ce qui est quand même tout à fait important et à bien des égards. Mais vous avez aussi tout ce qui est navigation commerciale. Et c'est pas pour dire, mais la Manche, c'est une ruelle malfamée avec des bateaux dans tous les sens. Et dans ces bateaux dans tous les sens, viennent se rajouter maintenant la plaisance. Et ce ne sont pas les plus faciles à diriger, enfin on les dirige pas, mais à gérer, on va dire, quand il se passe quelque chose. Voilà, donc si vous voulez, grosso modo, le préfet maritime ne travaille qu'à la mer, au-delà des eaux territoriales, on va dire, pas des eaux territoriales, au-delà de ce qu'on appelle l'estran, c'est-à-dire l'endroit où la marée basse va plus loin.
Oui, tout à fait.
Donc il y a le préfet jusque-là, après préfet maritime, et ce sont les intérêts de l'État en mer, activité économique, activité plus ou moins industrielle quand il y en a, sauvetage en mer, navigation de plaisance, navigation commerciale.
Alors, est-ce que c'est vous, en tant qu'amiral préfet, qui donnez mission ou ordre d'intervenir, ou c'est...
Je donne ordre d'intervenir, mais ça dépend à qui.
D'accord.
À ceux qui dépendent de moi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, si vous voulez, tout ce qui est, par exemple, sauvetage en mer, tout ce qui est police maritime de la mer, et il y en a beaucoup, vous savez, les histoires de pêche, parce que c'est effrayant, surtout dans cette région-là, avec, par exemple, les huîtres, ne serait-ce que le problème des huîtres, les champs d'huîtres, enfin, c'est dingue. C'est vraiment un problème tout à fait étonnant, tout à fait, voilà, mais c'est comme ça. Voilà.
Mais c'est passionnant.
Ah, c'est passionnant. Moi, j'ai beaucoup regretté de partir un petit peu vite de là où j'étais.
Alors, merci, amiral, pour ces explications passionnantes. J'espère aussi, vous, auditeurs, auditrices, que vous avez été passionnés par ce récit de l'amiral Mallard, que nous allons retrouver dans une prochaine émission, justement, où l'amiral Mallard devient vice-amiral d'escadre. Mais là, c'est une autre histoire. À très bientôt. Merci.